Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Chers amis, bonjour, ici Pauline Nénio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le gratin Vincent Montalesco, vice-président marketing de la marque Montblanc. Si l'épisode vous a plu, vous a appris des choses peut-être, eh bien n'hésitez pas à lui dire sur ses réseaux personnels et en particulier sur LinkedIn où il est actif à son nom Vincent Montalesco. Vincent, vous allez voir, est à l'image de la marque qu'il anime, élégant, posé, réfléchi. Papa de 4 enfants, très attaché à sa vie de famille, passionné par son métier, il est aussi un homme du changement. Vous l'aurez compris, Vincent, c'est une force tranquille. Originaire de la région de Limoges, Vincent fait ensuite ses études à Dauphine avec un objectif en tête, travailler pour une marque dans le monde du sport. Paris réussi puisqu'il débute sa carrière professionnelle à l'agence Havas Sport. En l'an 2000, l'un de ses rêves se concrétise et vous allez voir que Vincent rêve grand, il met le pied dans la porte de l'un des géants du monde du sport, Adidas. Vincent y restera 17 ans et en retirera tout un arsenal d'enseignements qu'il nous livre dans cet épisode. En 2017, il arrive enfin chez Montblanc, à son poste actuel de VP Marketing, avec une mission aussi intéressante qu'ambitieuse, faire évoluer cette marque centenaire pour la faire vivre avec son temps. En parlant avec Vincent, j'ai rapidement compris que j'avais affaire à un vrai, mais un vrai de vrai passionné. Un passionné de la marque, de sa construction, de sa mission, de ce qui fait qu'une marque est unique. Un sujet que personnellement, vous le savez, j'adore aussi. Nous avons donc commencé par aborder la question du sens d'une marque, pas simplement un sens commercial, mais plutôt sa raison d'être, sa mission. En prenant l'exemple de Montblanc, Vincent m'a expliqué les étapes qu'il avait suivies pour passer d'un territoire autour de l'écriture à un univers beaucoup plus large autour d'une idée de laisser une trace. Si vous voulez un cours magistral de marketing, messieurs, dames, sachez que vous allez aujourd'hui être servis. D'abord, on a appris avec Vincent qu'il ne faut pas à tout prix vouloir réinventer la roue. Faire un travail sur la marque nécessite avant tout de l'humilité, celle de puiser dans les racines historiques de son produit. Ensuite, Vincent nous explique qu'il faut avant tout formuler une mission simple, claire, limpide, parce qu'en matière de marque, la complexité est un aveu d'échec. Enfin, il nous expliquera que porter ce renouveau en interne est extrêmement important et qu'il faut avant tout faire adhérer les équipes via un travail de pédagogie et de répétition. Au final, 2 ans de travail qui se matérialisent par une nouvelle campagne publicitaire que Vincent m'avait fait découvrir juste avant qu'on enregistre l'épisode et que j'ai absolument trouvé formidable. Comme on en parle indirectement dans le podcast, eh bien je vous la mets également en lien dans les notes de l'épisode et vous allez voir, elle est absolument extra. Je vous invite à aller la regarder. Sur la fin du podcast, on a aussi évoqué des sujets plus personnels, comme par exemple la difficulté d'allier une carrière ambitieuse avec une vie personnelle épanouie, l'importance d'un temps de silence dans une vie bien chargée, ou encore d'avoir des engagements porteurs de sens au-delà du professionnel. Une bien jolie leçon de vie. Un dernier détail avant de vous quitter, malheureusement, mon matériel a connu quelques difficultés durant l'enregistrement, rien de grave, vous allez voir, mais certains passages sont un petit peu hachurés, j'en suis vraiment désolée, et surtout, je trouve ça vraiment dommage vu la qualité du contenu que nous a donné Vincent. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Vincent Montalesco. Bonjour Vincent et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline, merci de m'accueillir.
Écoute, je suis ravie de t'avoir, d'abord parce que tu le sais, je suis une grande fan de la marque de Montblanc, donc j'étais très contente de pouvoir discuter avec toi de ce grand renouveau que vous êtes en train d'instaurer et d'ailleurs poussé par toi. La marque est un de mes péchés mignons, je craque régulièrement et donc en plus on est ici dans l'une de vos boutiques Boulevard des Capucines, c'est assez saisissant. Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer dans le vif du sujet, sur le sujet de la marque, et notamment, en fait, j'aimerais comprendre, toi, donc, t'es VP Marketing Monde de Montblanc aujourd'hui. Pour commencer, juste, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes dans l'audience qui se disent, ok, d'accord, le marketing, on sait un peu approximativement ce que c'est, mais quand on est à la tête d'une marque comme Montblanc au marketing, concrètement, quel est le rôle et quelles sont les missions ?
Alors, la chose la principale, en fait, sur laquelle je passe le plus de temps, c'est la marque et l'emblème, en fait, de Montblanc et tout ce qui peut toucher cet emblème-là. Donc, ça va de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui dans cette boutique, donc toute la partie visuelle qu'on peut retrouver dans chacune des boutiques, bien entendu sur toute la partie communication, sur tous les médias, sur toutes les relations publiques qu'on peut avoir, sur tous les événements qu'on peut organiser. Ouais. Mais avoir également un impact sur le produit. Pour ça, je travaille de manière très proche avec notre directeur créatif et notre CEO, mon patron, Nicolas Baretsky, qui a un avis très précis sur les produits qu'on développe.
D'accord.
Mais donc, on travaille de manière très proche avec les patrons de catégorie pour être sûr que, en fait, tout ce qui touche à la marque et soit consistant et cohérent par rapport au message qu'on veut faire passer.
Et donc toi, tu es chez Montblanc depuis plus de 2 ans maintenant. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu viens pas du tout finalement du monde de l'instrument d'écriture. Tu viens donc notamment du monde du sport. Et en fait, quand j'ai pensé à cette interview, je me suis dit, mais en fait, ce qui est dingue avec Montblanc, c'est l'héritage. C'est le cas un peu pour toutes les marques de luxe. On pense tradition, on va penser transmission, notamment avec les une fois de plus les instruments d'écriture. Et en même temps, une marque, je sais que c'est un objet vivant qui est censé évoluer. Et justement, ce que je trouve génial, et c'est pour ça que je voulais faire cette interview, c'est que là, vous êtes en train de faire évoluer la marque, donc d'une marque qui était très basée, si je comprends bien, sur l'écriture, et tu m'as montré juste avant qu'on commence donc les premières vidéos de la campagne, sur un nouveau territoire de marque. Je voulais que tu m'expliques, en fait, pourquoi est-ce que vous avez fait ce shift ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de finalement faire évoluer, tu vois, la marque dans un sens beaucoup plus business, lifestyle ?
Alors, le premier point, c'est une vraie transformation par rapport à des messages qu'on veut faire passer et cette transformation, elle est liée plus à une transformation de société qu'une transformation de marque. Concrètement, on vient d'un univers très orienté business, très classique et en fait, quand on voit l'évolution du business et la manière dont nous-mêmes, je pense l'un comme l'autre, mais tous les gens qui sont autour de nous vivent leur business au quotidien, c'est très différent. L'arrivée du smartphone a quand même révolutionné beaucoup de choses. Et donc, en fait, cette évolution de société, naturellement, nous amène à réfléchir à comment nous, on se positionne en tant que marque dans cet univers qui est mouvant et qui est changeant. Donc, en fait, on n'est pas en train de révolutionner la marque, pas du tout. En fait, c'est une marque qui est née en 1906, donc c'est pas quelque chose qui est arrivé hier matin et puis qui va se disparaître demain matin. Mais c'est une marque qui doit évoluer dans le temps par rapport à une évolution d'un marché sur lequel elle est et sur lequel elle a envie de continuer d'être et d'être forte. Donc en fait, ça c'est le point de départ. Après, on a effectivement depuis l'origine l'écriture qui est en fait l'essence en fait même de la marque. Mais au-delà de l'écriture, quand on regarde, et j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les archives, je dois l'avouer, je continue.
Ouais, mais justement, je vais te parler après du processus, comment ça s'est passé.
Ça, donc, c'est critique. Je pense que c'est la clé de voûte de tout ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai la conviction qu'on ne peut pas faire une transformation sans aller profondément au cœur de des archives d'une maison comme la nôtre. Effectivement, je viens dans une autre industrie, mais qui a aussi des archives exceptionnelles et d'une autre marque. Et c'est pareil, les transformations ont été faites sur la base des archives. Donc en fait, en passant pas mal de temps dans cet univers-là, on découvre très vite que la partie cuir, elle est déjà présente dès le début des années 20.
D'accord.
Parce que finalement, le cuir, il était aussi lié à l'écriture et à tout ce qu'il y avait autour de l'écriture. Donc on avait déjà une deuxième catégorie de produits finalement qui était déjà là très vite. Et je reviendrai sur cette catégorie-là, puisque finalement, c'est celle qui va être peut-être une des catégories reines des prochaines années.
D'accord.
Et puis après, petit à petit, on regarde en fait notre clientèle, comment elle vit finalement dans l'univers dans son univers de business, mais dans son univers de vie. Et là, on se rend compte qu'il y a d'autres accessoires finalement qui sont importants. Et donc, dans les années 90, on a décidé d'aller développer une troisième catégorie, qui est la catégorie montre, et sur laquelle on a investi fortement. Et dernièrement, il y en a une quatrième qui est arrivée, qui est de la partie tech.
Oui, c'est vrai.
Et là où aussi, on continue de se développer petit à petit avec des nouveautés. Mais dans chacune de ces catégories-là, ce qui est intéressant, et pour moi c'est quelque chose qui a été nouveau hein, quand je suis arrivé chez Montblanc, c'est de voir la profondeur en fait et la manière dont on produit. Concrètement, on a nos propres manufactures et on va s'installer là où il y a un vrai savoir-faire. Donc je reprends les montres, on est installé dans les vallées des montres en Suisse, à côté des plus grandes marques de montres, voilà, exactement à la Chaux-de-Fonds, à Villeray. Et on a aujourd'hui une manufacture qui s'appelle Minerva, qu'on a rachetée et qui a plus de 160 ans d'histoire. Donc on travaille comme vraiment un pure player. Alors je ne vais pas parler de l'écriture, même si je pourrais en parler pendant des heures, mais effectivement...
Moi aussi, je pense qu'on va lasser des gens, mais moi...
Mais voilà, notre manufacture, elle est là depuis le départ, elle est à Hambourg, et c'est le cœur en fait de l'écriture. Et puis sur le cuir, c'est la même manière, on va travailler là où il y a les meilleurs, et donc on travaille à Florence avec une manufacture qui nous aide à développer les meilleurs produits et les plus beaux produits.
Donc si je comprends bien en fait ton job concrètement, quand tu te dis, ok, enfin... pas seul, hein, j'imagine, mais il faut un peu repenser la marque, en tout cas il faut la faire évoluer en fonction de l'air du temps. En fait, tu vas reprendre des invariants qui sont les invariants de la marque, et ça je trouve ça très intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes qui se posent la question, qu'on soit entrepreneur ou qu'on travaille dans d'autres marques corporate, luxe ou pas d'ailleurs, en fait il faut quand même se baser, pas tout réinventer, mais se baser sur un existant, sur des fondamentaux qui sont déjà là, un héritage donc, et ensuite le faire évoluer avec la société, avec l'air du temps et avec peut-être des insights aussi d'opportunités business, j'imagine, que vous avez identifié.
Complètement. Ce qui se passe simplement, c'est que on peut pas, enfin, je crois pas à la révolution au sein d'une marque qui a plus de 100 ans. Je pense que si une maison a tenu pendant toutes ces années et a continué de croître, ce qui est notre cas, c'est qu'il y a une bonne raison et que cette raison-là, on doit aller la comprendre dans les archives et dans toute cette histoire et cette historique de marque. Quand on est patron du marketing, on peut arriver et se dire finalement, je vais faire ma révolution, je vais laisser ma propre empreinte, et puis dans 2 ans, je m'en vais, et puis on verra bien ce qui se passera. Ça n'a pas été mon parti pris, et je pense que ça n'a pas été mon brief de départ. Je pense que Nicolas, le patron de la maison, avait été très clair là-dessus, et je pense qu'on est complètement aligné. C'est de dire, voilà, on est la maison, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est regardons ce qui se passe autour de nous, et je pense que là, quand on revient à nos 3 fondateurs, puisqu'en fait, c'est une maison un peu particulière, c'est pas comme une maison classique de luxe fashion, on va dire, où il y a un nom. Là, c'est vraiment 3 entrepreneurs qui sont amis, mais qui viennent d'univers très différents. Il y en a un plus commercial, un plus financier, un peu plus ingénieur. Et en fait, ces 3 personnes, elles se disent à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Quelle opportunité on pourrait avoir? Et donc, il y en a un de Berlin, de Hambourg, et ils décident de traverser l'océan et de partir voir un peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc en fait, il y a quand même une ouverture d'esprit naturelle et qui est ancrée dans la marque, et je pense qu'elle est très réelle. Et pourquoi je parle de ça? Parce que en fait, quand on a fait l'exercice et quand on a commencé l'exercice avec Nicolas et avec les équipes, c'était dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Comment vivent nos clients qui étaient effectivement, et qui le sont toujours, hein, parfois très sédentaires, mais également des clients qui bougent en permanence. Et donc, en fait, vraiment d'avoir une vraie analyse de société et d'évolution de notre clientèle. Et c'est là où on est parti sur ce positionnement de Luxury Business Lifestyle et qui est en fait une combinaison. Là, je vais parler pour moi et je peux en parler assez naturellement. C'est-à-dire que je dois visiter 2 pays par semaine. Ouais. Je suis tout le temps en voyage. Et ça ne m'empêche pas d'avoir aussi une vie personnelle assez forte. Et j'essaie de combiner les deux, alors parfois maladroitement, mais, mais j'essaye quand même. Toujours est-il que c'est ce que je suis. Et je pense que voilà, je suis un client Montblanc. Donc, donc de fait, il faut que je regarde effectivement comment moi je vis, mieux le comprendre et donc de l'adapter par rapport à ce que nous on fait en tant que marque.
Écoute, je trouve que c'est hyper intéressant parce que là, si je retiens 2 insights, même pour ma propre marque, c'est un, en fait, être le client de son propre produit, c'est fondamental pour comprendre son client. Et puis deux, cette presque notion psychologique du marketing qui est qu'il faut comprendre en gros les processus de pensée, de décision des personnes qui vont être tes potentiels clients pour pouvoir les adresser au mieux. Concrètement, justement, vous, au niveau du processus, donc j'ai vu la campagne, honnêtement, elle est magnifique. Donc, What Moves You Makes You, on va en parler. Est-ce que tu peux me parler du processus? Enfin, à partir du moment où vous dites « Ok, c'est bon, il faut qu'on fasse évoluer la marque, on veut la moderniser, on veut lui donner un nouvel élan », C'est quoi, quelle est ta feuille de route? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a énormément d'implications aussi au niveau des équipes en interne. Est-ce que tu peux m'expliquer quand tu arrives à quoi ressemble en fait ta roadmap, quoi?
Alors ma roadmap...
Désolé pour les anglicismes, messieurs,
dames. Les deux années qui viennent de s'écouler, alors j'ai quelques cernes, hein, parce qu'effectivement, on y a mis un
peu d'énergie. Ça se voit pas.
Mais elle a été relativement claire dès le départ, en fait. Donc, quand je suis recruté par Nicolas Baretsky, le point central, c'est de dire on veut faire une transformation de la marque, on veut être plus orienté client et on veut créer de la désirabilité. Donc, voilà, c'est à peu près le brief de départ. Et de ça, à toi de jouer. Et moi, je venais effectivement de faire un peu le même exercice sur mes 5 dernières années chez Adidas. Donc, j'avais à peu près une petite idée de comment le construire. Après, j'avais aucune idée de l'industrie. Donc, c'était
sacré challenge, quoi.
Donc, ma première étape, c'était déjà de comprendre là où je mettais les pieds. Et effectivement, le choix que j'ai fait, c'est de parler beaucoup et surtout d'écouter beaucoup, les gens qui étaient là depuis longtemps, les gens qui sont dans les marchés. Donc, j'ai passé mes premiers 6 mois à visiter les marchés, écouter les clients.
Quand tu dis les marchés, c'est dans tous les pays,
tous
c'est
les
ça
pays,
où vous êtes présent.
Voilà. Dans tous les pays, on est présent et on est présent partout. Donc, effectivement, c'était
donc,
un bon parcours.
Et donc, concrètement, tu vas physiquement en boutique, dans les sièges des différents pays.
Je vais physiquement en boutique, je vais physiquement dans les sièges et je vais physiquement dans les événements clients pour écouter les clients. Donc, en fait, j'ai dîné maintes reprises avec des clients en leur demandant, expliquez-moi votre perception de Montblanc. Donc, tout à l'heure, t'étais fan, j'aurais pu faire exactement la même chose avec toi, c'est-à-dire de comprendre pourquoi t'es fan et explique-moi. Donc ça a été une première étape. La deuxième étape qui était complètement parallèle à celle-ci, c'était ce que je disais tout à l'heure, rentrer dans les archives. J'ai une conviction très très forte qui n'est pas que la mienne, c'est de dire encore une fois, une maison qui a plus de 100 ans, c'est pas un hasard. Et une maison qui continue de croître après 100 ans, c'est pas un hasard. Donc il faut comprendre d'où ça vient. Et donc d'aller vraiment à l'essence même. Et encore une fois, je pense qu'on peut apprendre tous les jours de ça, et c'est assez extraordinaire. Donc ça, c'était les deux éléments parallèles. Le troisième step, c'était de m'entourer. Donc a été aussi un élément important de dire est-ce que j'ai les personnes qui sont les bonnes personnes pour faire une transformation autour de moi. Ce qui n'enlève en rien la crédibilité des personnes qui étaient autour de moi à ce moment, au point de départ. Mais une transformation, c'est pas simple. Il faut des profils particuliers. Donc, j'ai eu cette troisième étape qui était de dire, je vais m'entourer peut-être de gens avec des profils différents. Ça a été le cas très vite. Dans les 12 premiers mois, j'avais changé pas mal de gens dans ma première ligne en faisant venir, pour être très précis, une personne de Chine, parce que la Chine est un marché clé pour nous et que pour comprendre la Chine, il faut écouter les Chinois. Et que c'est difficile pour nous, Européens, de bien comprendre les spécificités d'un marché comme celui-ci. J'ai fait venir un Américain parce que les États-Unis sont un marché clé pour nous et qu'il me fallait quelqu'un qui comprenne aussi les États-Unis. J'étais récemment à New York rencontrer le patron de Nespresso qui est français et qui a réussi à vraiment percer le marché là-bas. Mais il y a très, très peu de gens qui viennent d'Europe et qui réussissent aux États-Unis.
Et dans le luxe en particulier, en réalité, c'est pas si évident.
Absolument
pas. On voit, moi, je connais mieux le secteur de la joaillerie, mais Tiffany's, par exemple, est tellement implantée par rapport aux autres maisons, c'est pas évident,
Mais c'est vrai dans le luxe, comme c'est vrai dans toutes les industries. Je prends celle que je connais peut-être encore mieux, qui est l'industrie du sport. Nike a peut-être 80% de part de marché sur le marché américain. Et c'est son seul élément de différence avec Adidas, parce que sur tous les autres marchés, où ils sont en tête-à-tête, où Adidas est devant. Le seul point de différence, c'est les États-Unis, et c'est compliqué. Donc voilà, pour comprendre ces marchés-là, qui sont nos marchés clés, la meilleure façon de le faire, c'est de faire venir des gens qui sont de ces marchés-là et qui comprennent la culture locale. Donc ça, ça a été ma troisième étape.
Ouais.
Ma quatrième étape, ça a été de trouver le bon partenaire extérieur. Et là, on a passé pas mal de temps, on a fait un pitch d'agence, on avait une agence avec laquelle, je pense, on était bien... Mais encore une fois, une transformation, c'est différent. Et donc, on est passé à travers un long processus qui a duré presque 6 mois avec, en pitchant des agences d'univers très différents. Et on a fait un choix un peu audacieux. Mais là aussi, l'audace, je pense que ça fait partie des valeurs de la maison et des trois fondateurs. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ils étaient très audacieux pour le coup. Et donc, on est parti sur une agence... qui moi me rend très heureux, qui m'a rendu foudrage pendant des années, puisque cette agence s'appelle Wieden & Kennedy et qu'elle est très connue parce que ça a été et c'est toujours l'agence historique de Nike. Donc voilà, ça n'a pas été une agence pour moi qui était que j'aimais beaucoup, mais aujourd'hui je l'adore. Et c'est vrai que de travailler avec eux, alors on a choisi le bureau d'Amsterdam. Parce que il doit y avoir une cinquantaine de nationalités différentes, avec des parcours très différents, mais avec des gens qui ont une expérience de la transformation, du marketing, de la communication qui est assez extraordinaire, avec beaucoup d'ouverture. Ils sont indépendants. Et donc, pour nous, c'était important de trouver un partenaire, voilà, qui allait nous amener vers quoi on a envie de tendre, en sachant que le challenge, c'est qu'ils n'ont pas travaillé beaucoup dans le luxe jusqu'à maintenant.
Écoute, hyper intéressant, parce que ça a pris quoi ? Ça a pris quasiment 2 ans, en réalité, tout ce processus. Il faut quand même se réaliser que c'est un processus qui est extrêmement long.
Ça a pris, on va dire, pour arriver jusqu'au bout du pitch, on était déjà à presque 1 an et demi.
C'est incroyable.
Et 1 an et demi, c'est très court.
Oui, c'est à la fois long et court.
C'est très long, mais c'est très court. Parce que dans ce temps-là, on a aussi construit ou reconstruit la plateforme de marque. Pour finalement définir le brief précis de là où on avait envie d'aller. Donc là aussi, il a fallu aller très vite pour construire cette plateforme de marque, parce que finalement, c'est entre guillemets la bible de tout ce qu'on est en train de faire.
Alors, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué plein de fois dans le podcast, donc je pense que maintenant les auditeurs savent ce que c'est qu'une plateforme de marque. Mais justement, en fait, quand tu te dis qu'il faut reprendre la plateforme de marque d'une marque comme Montblanc, qui, comme tu disais, est née en 1906, ça te fait quand même une petite pression sur les épaules. Et vous avez là, en fait, finalement, l'aboutissement, si je comprends bien, de la plateforme de marque via les campagnes. Et en gros, ce qui est assez fou, c'est que donc, je te remercie de me l'avoir montré en plus un peu en avant-première, mais vous avez choisi des ambassadeurs. Choisir des ambassadeurs quand on doit incarner sa marque, incarner une plateforme de marque qui est là un changement donc vers le fait de, enfin tu vas peut-être me l'expliquer, mais le fait d'être dans l'action, le fait de faire les choses, ça doit être extrêmement stressant, j'imagine, parce que tu te dis ok, certes j'ai des contraintes marketing, je dois m'adresser à telle et telle personne parce que ça correspond à mes personas, à mon marché, mais en même temps tu polarises quand même à l'attention sur un style, sur une personne, sur une personnalité. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que j'ai jamais finalement posé cette question, comment vous avez choisi ces personnalités et quelles sont-elles aussi, déjà, pour les personnes qui n'auraient pas vu la campagne. Voilà, comment est-ce que vous avez fait ce processus de décision ?
Alors là aussi, c'est un exercice qui demande du temps. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Je dirais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En fait, j'ai un défaut, c'est que j'aime bien le stress et que j'aime bien le stress positif, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'exaltation derrière tout ce processus. Enfin, moi, je suis un passionné par la transformation, donc c'est un exercice qui me plaît. Mais c'est vrai que, on va dire, dans un monde un peu normal, on prendrait un peu plus de temps que ce qu'on a fait pour aller chercher nos ambassadeurs. Donc, chez Montblanc, on avait un ambassadeur depuis quasiment 5 ans, qui est Hugh Jackman, qui est une personnalité assez extraordinaire. Moi, je dois avouer que j'ai été assez sidéré. J'ai quand même rencontré pas mal de sportifs, moins d'acteurs dans mon parcours. Et j'ai découvert une personne, mais d'une simplicité, passionnée par la marque Montblanc, engagée, qui m'a assez fasciné et qui m'a amené beaucoup de doutes, je dois avouer. Doute dans le sens où je me disais, mais est-ce qu'on trouvera des gens qui sont engagés comme il l'est pour représenter notre maison Montblanc. Par contre, j'avais un autre élément qui était un vrai moteur pour moi, qui était de dire, une maison et un emblème aussi fort qui existe depuis plus de 100 ans, il dépend pas d'une personne, c'est pas possible. Donc, c'est le moment de changer. Et ça n'a rien à voir avec Hugh Jackman, mais c'était le moment de changer pour nous. Donc ça a été un premier élément, un premier critère de changement. Le deuxième, c'est de dire, je ne crois pas encore une fois qu'une maison puisse être représentée par un seul visage. Parce que finalement, ça ne reflète pas maison. Et par rapport à ce que tu disais...
Oui, moi, je ne me reconnais pas particulièrement dans Hugh Jackman, je t'avoue, même si je suis sûr qu'il est fort sympathique.
Effectivement, je peux comprendre ça. Donc, une image d'une personne ne peut pas représenter une maison, je ne le crois pas, à moins que ce soit une maison de luxe et qu'il y ait effectivement un fondateur qui soit extraordinaire. Et donc là, c'est différent. Mais ce n'est pas notre cas. Et puis un troisième critère qui est de dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu beaucoup de voyages derrière tout ça, c'est de dire qu'on a des marchés important, mais on a des marchés très différents, avec des cultures très différentes. Alors, on a une marque, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. On n'a pas 18 marques, c'est-à-dire qu'on ne tord pas la marque parce qu'on est en Chine ou parce qu'on est aux États-Unis ou parce qu'on est en France. Mais par contre, on peut s'adapter à une culture plus locale et à une manière de communiquer à travers, effectivement, peut-être des égéries, des ambassadeurs qui peuvent nous aider à traduire cette culture et à se rapprocher finalement de notre clientèle plus locale.
Donc en fait, ce que tu es en train de dire au niveau peut-être des conseils qu'on pourrait donner à des auditeurs, c'est si jamais tu as une marque, hein, tu as la chance d'avoir une marque internationale ou que tu essayes de faire en sorte que ta marque soit un peu plus internationale, il faut que les valeurs soient communes, si je comprends bien. Mais par contre, effectivement, on peut se permettre quand même de rendre culturellement en fait des petites modifications pour s'adapter quand même plus fortement à tel ou tel marché, quoi.
C'est ce que je crois et je pense qu'on peut le faire, encore une fois, sans tordre la marque, mais simplement en amenant des ambassadeurs ou des influenceurs qui peuvent effectivement donner une aspérité plus locale et on reste quand même sur la même plateforme de marque qui ne change pas d'un pouce, c'est-à-dire qu'on a passé du temps là-dessus. Moi je demande à chaque personne de l'imprimer et de la mettre sur sa table de nuit de la lire tous les matins et tous les soirs avant de se coucher. Donc voilà, et c'est quelques mots. Et en fait, cette plateforme de marque, pour moi, qui est la base, quand on l'a finalisée, ma manière de la finaliser, c'était de la montrer à mes enfants et de leur demander est-ce que vous la comprenez. Ils l'ont comprise. Mais si vous la comprenez pas, et ça peut paraître peut-être caricatural, j'aurais aucune chance de convaincre plus de 2 ou 3 000 personnes au sein de l'organisation et de leur dire voilà, c'est ça la base et c'est avec ça qu'on va avancer.
Ce conseil est génial.
J'utilise beaucoup mes enfants, c'est pas bien, je sais, mais je le fais. Et du coup, voilà, on en est arrivé à choisir des ambassadeurs différents. Donc, on a choisi effectivement un ambassadeur qui vient des États-Unis, qui s'appelle Spike Lee, qui, si tout va bien, j'espère, on pourra le voir à Cannes au mois de mai. Mais avec toute l'actualité qui se passe en ce moment, on va voir comment ça évolue. Enfin, en tous les cas, j'espère qu'il sera là. Et on le savait pas quand on l'a signé, donc c'était une belle nouvelle pour nous. On a choisi un ambassadeur pour la Chine qui s'appelle Chen Kun, qui est un peu plus jeune que Spike, voilà, qui a une quarantaine d'années, qui est acteur, qui est très connu, et je vous raconterai un peu plus ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis on a choisi un ambassadeur pour l'Europe qui s'appelle Taron Egerton. Là aussi, on a eu de la chance puisqu'il a eu un Golden Globe après qu'on ait signé notre accord de collaboration ensemble. Donc aussi encore un cran plus jeune qui vient du UK. Et là, effectivement, on a une espèce de trio assez intéressant avec des profils intéressants, avec des étapes de vie aussi très très différentes. Et nous, on les appelle plus ambassadeurs parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. On les appelle les mark makers. Et en fait, c'est des gens qui laissent une trace. Et qui nous ramène finalement à notre plateforme et à notre raison d'être, étant persuadé, et c'est quelque chose qui est lié à l'humanité, mais que on a tous la chance et une opportunité de laisser une trace. Après, peu importe la manière dont on va le faire, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est réel et c'est quelque chose qui est très fort et très lié à la DNA de Montblanc. Alors peut-être à l'écriture, mais ça va au-delà de l'écriture. Et du coup, voilà, c'est sur ces critères-là qu'on a travaillé.
Que vous avez choisi. Est-ce que, Vincent, je peux te demander de me parler comme si j'étais un de tes enfants ? C'est quoi, du coup, la plateforme de marque Montblanc ?
Donc, la plateforme marque Montblanc, c'est d'abord, est-ce que tu comprends le sens, le pourquoi, en fait, le pourquoi on existe ? Et on l'a écrit de manière très simple, c'est chez Montblanc, on croit que chaque personne a la possibilité de laisser sa marque. Donc, déjà, j'ai posé cette question-là, est-ce que tu le comprends ? Alors, j'ai dit mes enfants... mes grands-enfants, voilà, j'ai une palette d'enfants à disposition. J'ai pas utilisé la petite dernière, mais j'ai utilisé plutôt les grands ados ou jeunes adultes et qui sont effectivement dans cette étape de vie et qui se posent déjà ces questions-là. Donc, ça leur a parlé de manière très simple. La deuxième chose que je leur ai évoquée, c'est voilà, ça c'est notre mission en tant que marque, en tant que maison. C'est d'inspirer nos consommateurs, nos clients, nos futurs clients et les inspirer sur leur potentiel et tout ce qu'il y a autour de leur potentiel pour justement essayer de laisser cette marque, cette trace, pardon. Et donc, je leur ai dit, est-ce que ça vous parle, en fait ? Donc, j'ai eu la chance qu'ils me répondent oui. Après, ils m'ont dit, c'est ambitieux. Donc, il va falloir quand même que tu fasses 2-3 choses pour nous inspirer, quoi. Donc voilà, ça c'est mes points de départ, je leur ai parlé des valeurs, des valeurs de notre maison. Et encore une fois, ce sont des valeurs qui sont très proches de nos fondateurs. Hein. C'est pas des valeurs où on s'est dit, mais tiens, on va s'inventer belles valeurs, c'est chouette. Voilà, pas du tout.
Oui, t'es obligé quand même d'avoir une sacrée honnêteté intellectuelle pour faire ce genre de travail, parce que juste essayer de pomper des valeurs à gauche, à droite qui sont à la mode, c'est pas non plus ça qui fonctionne, quoi. C'est ce que t'es en train de dire.
Ça marche pas. Et ça marche d'autant moins qu'on est, encore une fois, dans une maison où il y a tout cet artisanat d'excellence. Donc finalement, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont complètement passionnés. Si demain matin, on va leur raconter l'histoire de valeurs qui sortent de nulle part ou d'autres maisons certainement inspirantes, mais qui n'ont finalement rien à voir avec notre savoir-faire, ça va être compliqué.
Bah, justement, je voulais te poser une question. Tu me fais une belle transition sur le travail de conviction en interne, le leadership finalement aussi qu'on doit avoir en tant que dirigeant quand on fait une telle transformation. Parce que la gestion du changement, c'est pas évident. Mais en plus, dans une maison vénérable comme Montblanc, c'est, j'imagine, encore moins évident parce que les gens sont tout simplement attachés à la marque et à ses valeurs. Et donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer si ça a été effectivement un challenge de montrer en fait qu'il fallait faire évoluer la marque, et puis comment est-ce que tu t'y es pris, comment vous y êtes pris justement pour faire en sorte que tous les collaborateurs s'identifient, parce qu'on sait bien que à l'inverse, si jamais tu as un super projet que tu crois à ton évolution mais que personne te suit, malheureusement en fait c'est en général assez catastrophique.
Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut passer un petit peu de temps de réflexion, mais qui finalement est très simple à l'arrivée. Il faut avoir un message le plus simple possible et audible pour tous. Et quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Moi, je pars d'un principe qui est assez simple, c'est que une personne qui est une assistante ou une personne qui est un patron de pays a la même importance dans l'organisation, dans le sens où c'est un ambassadeur de la marque. Donc, si elle ne comprend pas le message, déjà, ça ne marchera pas. Donc, il faut simplifier le message au maximum. J'aurais dû commencer peut-être par une chose qui est finalement fondamentale, qui est le point de départ, qui est la tête de la maison. Le point de départ, c'est de dire, est-ce que le CEO de la maison a une vision et que cette vision, il la verbalise? En l'occurrence, Nicolas était très très clair depuis le départ. D'une part, il la verbalise et il le dit à tout le monde, mais au-delà de ça, il a aussi transformé son board, donc son comité exécutif. On est six, et les six, on a des profils très différents, mais on a eu tous le même brief et on est tous alignés. Et c'est vrai qu'on est une équipe très serrée, très soudée. Mais du coup, le message passe d'autant plus facilement, c'est-à-dire que c'est pas un one man show, c'est pas moi, Vincent, qui arrive et qui dit attendez, je vais vous expliquer comment ça marche.
Oui, les gens ne tirent pas dans les pattes, etc.
C'est un comité exécutif, un board qui marche ensemble et qui va exactement dans la même direction. Donc ça, c'est, on va dire, le point de départ. De ce point de départ, il y a un message qui doit être simplifié et clair. Et puis après, il y a un troisième élément, et c'est celui sur lequel il faut passer le plus de temps, il faut répéter. Il faut répéter, et il faut répéter encore.
Mais comment tu répètes? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais, tu t'envoies des mails, des communiqués à toute la boîte? Enfin, comment ça se passe concrètement? Parce que c'est quand même une grosse organisation, c'est pas comme une boîte de 15 personnes, quoi.
Alors, c'est répéter tous les jours. Il n'y a pas une réunion où je commence pas en disant est-ce qu'on est bien d'accord? Vous vous rappelez la plateforme de marque? Est-ce que ça touche bien? Donc, il y a tous les meetings qu'on peut avoir, les tête-à-tête, etc. Il y a toutes les visites de marché. Donc, à chaque fois qu'on vient dans un marché, on répète. Il y a effectivement tous les outils de communication, l'intranet, les mails, etc. Mais cet élément de répétition, parfois, est perturbant parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas là. Mon message, il est relativement simple. Finalement, tout le monde devrait l'absorber. Mais je vais le répéter 1 million de fois. Et bien, même ce 1 million de fois, il n'est pas suffisant. Et il faut toujours se le rappeler. C'est-à-dire que si on est convaincu de l'objectif, si on est convaincu du message, ça ne suffit pas, il faut toujours le répéter, parce que finalement, encore une fois, le changement, c'est pas quelque chose de simple et c'est pas naturel dans ce que l'on est.
L'homme n'a pas envie de changer, il a plutôt envie de
pas beaucoup, le français en particulier, mais pas beaucoup, c'est pas naturel. Et du coup, il faut l'accompagner de la manière la plus douce possible et pas violente, parce qu'encore une fois, je le répète, mais je crois pas dans une révolution, surtout sur une maison qui est là depuis très longtemps, encore une fois avec des gens qui ont un savoir-faire et une expérience très profonde. Donc c'est plutôt une transformation, et cette transformation, elle s'accompagne.
Hyper clair. Si ça te va, au-delà de Mont Blanc, j'aimerais parler quand même de tes autres expériences. Et alors, notamment, on en a parlé avant de commencer, de ton enfance, cette fameuse enfance dans le Limousin. Est-ce que, Vincent, tu peux me dire, je saute complètement du coq à l'âne, mais d'où tu viens ? D'où vient cette appétence peut-être pour les marques ? Enfin, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit et qu'est-ce que tu faisais au Limousin ?
Alors, effectivement, Limousin, c'est un peu plus que mon enfance parce que c'est ma vie. Aujourd'hui, j'y retourne très régulièrement. C'est là où je me ressource. Voilà, c'est une région que j'aime énormément. Donc,
de quelle ville ?
Je suis un peu plus du sud, alors, mais plus du sud par adoption, parce que mon épouse vient de Saint-Thierry-la-Perche. Donc c'est vraiment, on est à la limite de la Dordogne. Je vois la limite de la Dordogne et de la Corrèze. Il y a des très belles vaches, c'est les plus belles du monde.
Il y a des paysages sublimes.
Il y a des paysages sublimes, voilà, c'est merveilleux. Donc ça va au-delà de mon enfance, hein, je pense que ça fait partie de ce que je suis. Et de cette importance aussi de se ressourcer, de prendre de la distance par rapport à des rythmes un peu effrénés. Donc ça, c'est important. Après, comment je me suis construit, j'ai eu une chance, je pense, extraordinaire d'avoir des parents très aimants et passionnés de sport. Donc j'ai commencé le sport très très jeune, tout petit. Je pense qu'au moment où je commençais à marcher, j'étais à peu près sur des skis. C'est bizarre parce que le Limousin, oui, c'est pas très connu pour ses grandes montagnes, mais voilà, j'ai un papa qui m'amenait à la montagne quasiment tous les week-ends dans le Massif Central. Mais j'ai fait énormément de sport et j'ai eu un premier rêve, c'est de devenir joueur de tennis professionnel. Donc ça a été un premier rêve et puis finalement un premier échec. Mais il y a une chose qui m'a été inculquée par mon père, c'est il faut jamais arrêter de rêver. Et je rêve beaucoup. Donc j'ai des grands rêves, j'en ai plein, j'arrête pas. Parfois c'est un peu perturbant pour les gens qui sont autour de moi. C'est même usant. Mais voilà, c'est ce que je suis. J'ai quitté le Limousin une première fois quand j'avais 12 ans parce que la Fédération française de tennis avait décrété que j'avais peut-être un peu de potentiel. Donc je suis rentré dans une organisation dédiée au sport et dédiée au tennis, donc où j'ai passé trois ans de ma vie à Bordeaux.
Oui, quand même.
Et là aussi, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont formaté sur le travail, l'implication, la difficulté, parfois les pleurs, beaucoup d'échecs.
On dit justement très souvent, je suis désolée, je t'ai interrompu, que le sport, c'est quand même une école de la vie assez incroyable quand on est enfant, parce qu'en fait, on vit naturellement des échecs. Donc, on apprend globalement qu'il faut s'en remettre, qu'il faut se remettre en selle, qu'il faut réavancer à nouveau. Est-ce que toi, justement, tu pourrais peut-être élaborer un petit peu sur qu'est-ce que le sport, finalement, je sens que c'est quelque chose de très important dans ta vie, mais qu'est-ce que ça t'a appris vraiment comme valeur ? Qu'est-ce que ça t'a construit, tu vois, comme valeur ?
Alors, je pense que effectivement, ça fait partie de ce que je suis, ça c'est sûr. Et même si j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, en tous les cas, ça m'a construit. Les valeurs, pour moi, fondatrices, c'est d'abord il y a de se donner, mais à fond. Il y a un élément de passion, hein, parce que je pense qu'on peut pas se donner pleinement si on n'est pas passionné. D'apprendre à le mot est peut-être un peu fort, hein, mais je vais quand même le dire, d'apprendre à souffrir, parce que je pense qu'on peut pas réussir quel que soit le domaine sans qu'il y ait des moments qui soient difficiles. Quand on est un peu ambitieux, peu importe l'ambition et la définition de l'ambition qui est derrière, il faut savoir se faire un peu mal, voire savoir se faire mal,
sortir un peu de sa zone de confort, quoi.
Donc je pense que c'est un deuxième élément. Le troisième, c'est d'apprendre à perdre. Et je pense que là aussi c'est important, et de pas avoir peur de ça. Ça fait mal, mais c'est bon, c'est-à-dire que ça permet de rebondir. Alors moi, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des coachs incroyables et d'avoir un père incroyable par rapport à ça. C'est-à-dire que une phrase qu'il me disait toujours après une défaite, il me disait, tu sais, la terre va pas s'arrêter de tourner. Et j'ai jamais vu la terre s'arrêter de tourner, donc c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ça me donnait envie d'y retourner. Et puis la quatrième chose, je pense que c'est le respect de l'autre. On apprend sur un terrain, quel qu'il soit, à respecter. Alors ça peut être son adversaire, ça peut être son partenaire, parfois son coach sur lequel on a envie de taper. Dans le monde de l'entreprise, ça arrive aussi. Mais je pense que c'est des valeurs qui ont été fondatrices pour moi et qui sont importantes dans mon quotidien.
Est-ce que tu fais faire du sport à tes enfants, du coup ?
Je les force. non, je plaisante. Mais oui, 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 ils font tous un peu de sport, plus ou moins. Alors j'en ai un plus que d'autres, puisqu'il est parti aux États-Unis à 15 ans pour jouer au basket. Il est revenu depuis.
Ouais.
Donc il découvre aussi les joies de l'aller-retour parfois, qui sont difficiles, hein, mais il a eu une expérience extraordinaire. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on est aussi en famille. C'est un des facteurs importants du développement, je pense, de la personne.
Donc, enfant, tu rêves de devenir pro en tennis. Je comprends que tu ne le deviens pas. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui fait que tu vas t'orienter? Donc, bah, j'imagine, dans le monde du sport, ça, je le comprends, mais qu'est-ce qui fait que tu vas t'orienter plus précisément dans le marketing quand même du monde du sport? Qu'est-ce qui t'a intéressé avec ce type d'activité?
Alors, le premier point, c'était, j'ai réalisé très vite donc, que je voulais travailler dans le sport, quoi qu'il arrive. Et j'ai regardé un petit peu autour de moi. J'étais passionné des sports américains à ce moment-là, c'était il y a quelques années. Et c'est vrai que quand on regarde les sports américains, on voit quand même beaucoup de marques. Donc ça a commencé à m'intriguer, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et puis j'ai regardé un petit peu en France ce qui était possible de faire. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. À cette époque-là, effectivement, en entrant dans l'institut supérieur, il n'y avait pas une palette extraordinaire de choix. Mais à Dauphine, il y avait quelque chose qui était lié au sport et au sports marketing.
D'accord.
Donc j'ai pu passer par cette porte-là. Il n'y avait pas encore effectivement les chaires à l'ESSEC ou autre école de commerce. Et donc je suis passé par là. Et puis en fait j'étais quand même entouré de gens qui étaient passionnés de sport. Et je me suis rendu compte très vite que c'était un tout petit univers avec des gens qui adoraient le sport, qui adoraient les marques. Et j'ai très vite rencontré alors une personne qui s'appelle Lucien Boyer qui a créé Avasport et Entertainment, mais avant ça, qui avait une autre agence qui était chez Saatchi et Saatchi. J'ai eu une chance de faire un stage chez Danone en Argentine, mais je travaillais pas pour les yaourts, mais je travaillais pour l'eau et autour du sport. Donc en fait, j'ai eu plein de petites opportunités très rapides qui m'ont finalement gardé dans l'univers qui était ma passion, mais qui m'ont fait rentrer dans l'univers des marques. Et je me suis dit, voilà, ça c'est pour moi et je vais y passer ma vie.
Et donc, tu finis par arriver chez Adidas. Il faut quand même qu'on en parle parce que en plus, c'est quand même la marque européenne du sport. Enfin, je veux dire, s'il y en a une citée, je pense que c'est celle-ci. Première question, avant que tu me parles de la différence entre le marketing dans une marque de luxe et une marque comme Adidas, qu'est-ce que tu avais, avec un infini recul, j'imagine que ce n'est pas évident, mais toutes ces années chez Adidas, quels sont les grands enseignements que tu as appris, tant au niveau marketing que humain, que peut-être au niveau justement de la puissance de la marque? Si tu arrives avec beaucoup de recul, voilà, à me dire, mais concrètement, quelles sont les quelques grandes leçons que je peux te livrer, Pauline, aujourd'hui à ce sujet?
Alors, c'est plus des leçons personnelles, encore une fois, et peut-être moins techniques. La plus grande des leçons, elle se résume en 3-4 points et je peux la mettre en miroir de ce que je vis chez Montblanc. La première chose, c'est de travailler dans un univers qui nous passionne. Et moi, c'est très clair. Enfin, quand je suis entré dans cet univers-là, alors j'avais l'impression d'être né dedans, mais c'était juste extraordinaire. Tu disais Adidas, c'est la marque européenne du sport. C'est une des deux marques mondiales du sport. Quand quelqu'un est venu me voir et m'a dit voilà, il y a une position ouverte, est-ce que ça t'intéresse? J'avais énormément de mal à quitter l'agence pour laquelle je travaillais parce que j'aimais énormément les personnes et j'aimais mon travail, mais je me suis dit c'est dingue quoi.
Ouais.
Donc la premier élément, c'est la passion qu'il y a de ce qu'on a à l'intérieur, mais aussi de ce qu'on ressent quand on est dans l'entreprise.
Et c'est une passion pour la marque ou c'est une passion plus pour l'univers?
Pour l'univers. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est la passion pour la marque. Merci. parce que ça, c'est ce qui me touche le plus. Mais voilà, en tous les cas, pour moi, c'était important. Et je ne vais pas citer les marques pour lesquelles je n'aimerais pas travailler, mais il y en a plein. Je pense qu'elles sont liées à deux facteurs, l'univers et le produit et tout ce qu'il y a autour de la marque et tout ce qu'elle transpire. Pour moi, c'était important. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais reparler de mes enfants, mais j'ai besoin, quand je les regarde, parce que effectivement, je leur parle aussi de ce que je fais, ils le voient, qu'ils puissent se dire, papa, il est dans un univers qu'on comprend, qui est sain, et voire qui est cool, peut-être pas d'ailleurs, parfois, mais en tous les cas, qui donne un message fort et un message positif pour ce qu'ils sont. Donc, pour moi, c'est clair, la marque, elle est importante et j'ai besoin de l'aimer. Donc, tout à l'heure, je parlais de moi sur, en tant que client Montblanc, ou de toi, Pauline, en tant que client Montblanc. J'ai besoin de me dire, moi, je peux acheter cette marque-là parce que j'en ai envie. Si finalement, elle ne me procure rien, ça ne va pas être facile, en fait. Et ça ne va pas être facile pour nourrir ma passion. Donc, finalement, les deux premiers sont quand même très, très liés. Le troisième facteur, et celui-là, bah, je pense qu'on peut le choisir. Pas toujours en début de carrière, mais en tous les cas, on peut le choisir. C'est les personnes avec qui on travaille. Je suis, moi, très attaché et très sensible aux gens qui m'entourent, que ce soit au-dessus de moi, à côté de moi et en dessous de moi. Et c'est vrai que, autant chez Adidas que chez Montblanc, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des bonnes personnes autour de moi, des vraies bonnes personnes. Et ça, c'est une chance, mais c'est une chance qu'il faut aller chercher.
Justement, comment tu la cherches? Parce que je trouve que c'est pas évident. Alors évidemment, quand on passe des entretiens, bon, on rencontre un peu les personnes, mais est-ce que toi, c'est, et je pense que c'est un bon conseil pour les personnes justement qui changent de job, il y en a beaucoup qui sont pas entrepreneurs, qui écoutent le podcast, qui changent de job, est-ce que dès le moment où tu commences à passer des entretiens, à t'intéresser à une marque, tu commences vraiment à te positionner, et à pas te positionner, c'est pas le bon mot, mais à réfléchir justement aux interactions que tu vas avoir avec ces personnes-là? Est-ce que ces personnes peuvent devenir potentiellement des amis? Enfin, quel est ton processus de pensée à ce niveau?
Très clairement, c'est un élément, c'est pour moi un élément de décision. Après, c'est vrai que quand on commence une carrière tout jeune, c'est difficilement un élément de décision parce que la réalité est différente. Quoi. Donc, mais je pense que c'est même vrai aussi pour un entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, à moins qu'il soit seul, très vite, il va devoir s'entourer de quelques personnes et ces quelques personnes, elles seront clés pour son succès et ce qu'il va être et ce qu'il va développer. Donc, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention et je laisse mes émotions, j'écoute mes émotions. La première rencontre que j'ai eue avec Nicolas Baretsky a fait quasiment 90% du chemin.
Alors il faut que tu aies un coup de cœur pour la personne.
C'est très clair. C'est très clair. Et si ce n'est pas le cas, finalement, ça va très vite aussi. mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps pour le coup. Après, ce qui est difficile, c'est que parfois, on se trompe. C'est-à-dire que souvent, on dit attention, le premier sentiment, la première image qu'on donne, ben, c'est vrai, mais on a aussi le droit de se tromper. Donc, il ne faut pas non plus être complètement fermé. Mais c'est quand même un critère pour moi qui est fondamental. Parce que finalement, je passe plus de temps avec les gens dans mon organisation qu'avec ma femme et mes enfants. Donc, dans la vraie vie, si je ne fais pas attention à ça, ben, je ne vais pas être très heureux.
C'est clair. Justement, donc Adidas, tu es très heureux pour le coup. Et tu es aussi, à un moment donné, donc, vraiment au marketing chez Adidas. J'étais intéressée parce que je me dis, donc là maintenant, tu es chez Montblanc qui est une marque de luxe. Tu vas me dire, Adidas est aussi d'une certaine manière un peu une marque de luxe et puis c'est aussi une marque qui est ancienne. Mais quelles sont pour toi les grandes différences entre le marketing d'une marque comme Montblanc de luxe et une marque plus grand consumer good, tu vois, grand public quand même qu'Adidas?
Il y a une chose qui est radicalement différente et après, j'aurais envie de dire que le reste est très proche. Ce qui est radicalement différent sont les volumes. Et donc la manière de produire, et donc la manière de développer. Je pense que chez Adidas, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur une innovation produit, mais après le système de production, il est extérieur, et le process de production est très différent. Chez Montblanc, on va passer du temps à regarder tous les détails, les micro-détails d'un produit, du début à la fin du process. À la fois son premier jour de création, la manière dont le directeur créatif va le dessiner, etc. Mais jusqu'au dernier détail de la sortie de la manufacture. Et je prends un exemple parce qu'on a devant nous deux stylos. Je ne sais pas quel est le tien, je ne l'ai pas ouvert. Alors je vais le faire.
Mais
juste de l'ouvrir. Voilà, donc c'est un rollerball. Alors moi, je n'écris qu'avec une plume. Donc je vais prendre le mien parce que c'est
des formations professionnelles
peut-être ou en tous les cas un vrai plaisir surtout je pense. La plume, elle a plus de 17 étapes en fait dans la manufacture et la dernière, et c'est quelque chose qu'il faut voir, il faut venir à Hambourg pour voir ça parce que c'est quand même assez extraordinaire. Moi quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ils sont fous. Il y a ce que j'appelle un petit aquarium, donc où il y a un silence parfait et il y a des personnes qui ont des feuilles blanches et qui écrivent.
Qui teste quoi.
Et qui écoute et qui sente ce qui se passe avec la plume. Et s'il y a le moindre crack, la moindre chose qui ne marche pas, la plume repart dans son système de production. Et du coup, effectivement, c'est un élément de différence qui est fondamental. Et au début, j'ai du mal à le comprendre parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est bon, quoi. La plume, elle est belle, elle est propre, elle marche, tout va bien. Non, non, non. En fait, dans l'univers du luxe, ce détail et ce savoir-faire d'excellence, il est tellement fondamental qu'on ne peut pas passer à travers ce micro-détail. Et ça, pour moi, ça a été plutôt le plus gros changement, même si chez Adidas, quand on revient sur la partie plus sports marketing et le détail de la performance avec un athlète, on va retrouver finalement des choses très similaires de ce que je peux voir dans les manufactures chez Montblanc. Mais c'est vraiment une toute petite partie du business de chez Adidas, et c'est, alors que c'est le business de chez Montblanc.
Oui, une attention aux détails en fait qui n'a quand même rien à voir.
Rien à voir.
Hyper intéressant. On va parler un peu plus vie perso parce que le temps passe et j'aime bien à la fin du podcast poser des questions un petit peu plus personnelles si ça te va. Tu m'as parlé beaucoup de ta famille et je t'en remercie. Je veux parler d'organisation de vie pro et perso parce que c'est un vrai sujet pour énormément de personnes qui travaillent et notamment quand on a beaucoup de responsabilités, on sait que c'est très difficile. Toi, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est très important pour toi de garder un équilibre. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es formalisé ça et en gros, peut-être qu'est-ce que tu as mis en place justement pour arriver à concilier à la fois une vie professionnelle très ambitieuse et en même temps une forme de, on va dire... peut-être que tu n'y arrives pas, hein, d'ailleurs, tu as le droit. Mais tu vois, des astuces, des conseils, parce que tu veux concilier avec une vie perso quand même un minimum épanoui.
Difficile, sujet très difficile. Je ne sais pas si je suis un exemple parfait.
Je pense qu'il y en a.
Ouais. Mais voilà, en tous les cas, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, c'est plutôt ça. La manière d'avancer a été relativement simple pour nous, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps, mon épouse et moi, pour parler. De choses qui sont importantes, quelles sont nos priorités, de prendre le temps aussi de se remercier et de se pardonner quand il le faut. Donc finalement de s'ajuster. Et ça, c'est un temps qui est critique pour nous et on le fait de manière très très régulière, qui donne finalement le tempo de comment je peux avancer à la fois professionnellement et de manière personnelle, parce que très concrètement, elle est chef d'entreprise. L'entreprise, c'est notre petite entreprise et elle sait mettre des warnings quand il faut le faire. Et ça, c'est une qualité qui lui est propre, mais qui est assez extraordinaire. Donc, pour me rappeler aussi que parfois, je dérape et que je vais un petit peu loin.
Ça, tu lui demandes de te rappeler de...
Ah, très clairement. Hein. Mais maintenant, je pense que je n'ai plus besoin de lui demander, elle le fait naturellement.
Elle est assez cash, d'accord.
Mais c'est fondamental parce que quand je dis qu'elle est chef d'entreprise, c'est une réalité. Elle a une start-up qui a maintenant une grosse vingtaine d'années et sa start-up, c'est nous. Quoi. Donc,
ouais, elle gère la famille. Quoi.
Et c'est vraiment, c'est un job. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc on n'est pas alignés une fois tous les deux ans. On essaie de prendre le temps de s'aligner, de se réaligner en permanence. Donc ça, c'est un premier point. Avec les enfants, j'essaie de leur donner du temps de qualité. Malheureusement, je ne leur donne pas beaucoup de quantité. Mais en tous les cas de la qualité, par exemple ce soir donc je suis à Paris et je vais dîner avec un de mes fils en tête à tête, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'aimerais faire plus, mais voilà, maintenant ils ont commencé à voyager, donc l'année dernière j'en avais une qui vit au Mexique, un aux États-Unis, un en Angleterre, donc ça facilitait pas toujours le temps de qualité, mais bon, on trouve des moyens maintenant et puis comme je voyage, ça me permet d'aller voir quand ils bougent. Donc voilà, d'essayer de compenser la qualité par rapport à la quantité que je peux pas leur donner. Après, j'avoue que c'est frustrant. J'ai des moments où je trouve que c'est un vrai déséquilibre et c'est pesant. Donc voilà, c'est pas facile. Je pense que c'est facile pour personne voilà, quand on avance dans des jobs comme ça. Mais le seul conseil que je donne, c'est d'être vigilant et surtout de communiquer avec notre partenaire le plus possible et le plus régulièrement possible. C'est finalement pour moi la seule chose qui est importante.
Typiquement, elle a, j'imagine, un rôle à jouer aussi quand tu changes de job ou quand tu... Enfin, je peux imaginer que tu en parles, en fait. Tu es un peu obligé de dire, OK, là, maintenant, je vais prendre un nouveau poste. Je vais avoir beaucoup de traveling. Je vais me déplacer énormément. C'est ce genre de discussion que tu es obligé d'avoir.
Ah bah, très clairement, je pense que si j'ai quelques, on va dire, mentors, mais si je devais parler de mon vrai... Pas mentor, mais coach... C'est ma femme. Et surtout, sur tous les domaines. À la fois sur des choix, même au quotidien, de comment je peux communiquer sur telle ou telle chose, de manière professionnelle, même si elle est pas du tout, elle vient pas du tout de cet univers-là, mais alors vraiment rien à voir. Elle vient d'un univers qui est beaucoup plus littéraire et qui a strictement rien à voir, et qui ne doit pas être très loin de l'univers dans lequel tu as été au départ, je crois, dans tes études. Mais en tous les cas, elle a toujours le bon conseil, parce que finalement, elle a la distance que je n'ai pas. Ouais. Donc, je lui partage, parfois je la saoule. Mais voilà, elle a un rôle de coaching qui est fondamental.
Mais c'est vrai que savoir s'entourer de personnes qui ont de la distance par rapport à sa propre vie, mais c'est tellement crucial, quoi. Vincent, dans le crible du gratin, les questions que je pose à la fin, je pose toujours une question sur un moment difficile, un moment de doute. Tu as un parcours qui est quand même assez extraordinaire et j'aime bien quand même un peu titiller mes invités en leur demandant s'il y a un moment quand même d'échec, un moment difficile, juste pour que on comprenne un peu mieux qui tu es, et puis surtout que tu m'expliques qu'est-ce que tu en as retiré comme enseignement.
Alors, des moments difficiles, j'en ai eu plein, hein, mais je vais en ressortir un. Je vais pas cacher mon ambition et j'ai pas l'ambition d'être roi du monde. Enfin, ça m'intéresse pas en l'occurrence. Mais en tous les cas, c'est une ambition qui est liée à la performance. Et effectivement, j'ai beaucoup de rêves, voilà. Et je pense que c'est lié à ce que j'ai fait dans le passé quand je jouais enfant, quand j'étais sportif. J'ai eu à un moment donné chez Adidas des velléités pour devenir patron de pays. Et en fait, j'ai eu un parcours où j'ai passé 10 ans à Amsterdam, mais qui était lié au siège, et puis en Allemagne. Et en fait, je me disais, mais finalement, je performe dans l'univers dans lequel je suis. Il n'y a pas de raison pour que je ne devienne pas patron de pays. Mmh. Et puis, je l'ai exprimé. Et puis, au bout de 6 mois, ça ne venait pas. Et puis, au bout d'un an, ça ne venait pas. Et puis, au bout d'un an et demi, ça ne venait toujours pas. Et puis, au bout de 2 ans, ça ne venait toujours pas. Et là, je ne comprenais pas, en fait. Donc, énorme frustration. Mais pourquoi ? Un peu borné. Voilà. Et donc là, j'ai pris du temps. J'ai même demandé de retourner à l'école pour comprendre. Donc j'ai passé un peu de temps à l'INSEAD. Et j'ai réalisé finalement que parfois, on s'imagine une position dans l'organisation de manière très claire et de manière très bornée. Et en fait, c'est un partage. Et c'est du win-win entre une organisation et soi-même. Et qu'il faut faire preuve d'un peu de flexibilité et de se dire que quand on lâche un peu prise et qu'on se concentre sur le moment, donc la performance du moment, il se passera quelque chose de bon à un moment donné, c'est sûr. Mais que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qu'on maîtrise. Mmh. Alors, pour moi, c'était difficile. Voilà, pour moi, c'était difficile. Et finalement, à la fin de ça, je me suis rendu compte que alors, j'étais proche aussi du board de chez Adidas en fin de parcours chez eux. Et j'ai été gâté, en fait. J'ai eu des positions derrière qui m'ont proposé extraordinaires. Quand je me suis retrouvé patron de la stratégie, j'étais patron du sponsoring. Et c'était vraiment des positions fantastiques. C'était peut-être pas celles que j'avais imaginées. Mais j'y ai pris énormément de plaisir. Et donc, à la fin de l'histoire, de pas toujours être borné sur, c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Et finalement, de se concentrer sur le moment présent et de se dire que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors, peut-être qu'on peut appeler ça la providence. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Mais qu'elle prend soin de nous et que si on est performant dans l'instant, il y a des choses bonnes qui arriveront.
Ouais, donc rester focalisé sur ce que t'es en train de faire. Et avoir de l'ambition, mais pas forcément de manière aussi précise que ce qu'on nous apprend à l'école, quoi.
Oui, exactement. Ouais.
Donc, le sport a une part importante de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques encore du sport ? Est-ce que tu as le temps ? En fait, ma question, c'est toujours dans cet état d'esprit de se dire comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre vie professionnelle et vie privée ? Être en bonne forme, c'est important aussi pour performer, être émotionnellement bien, tu vois, dans son travail. Est-ce que tu continues à pratiquer ? Et quels sont aussi, là, tes réflexions sur le sujet de cet équilibre entre vie perso et vie pro ?
Alors, je suis un très, très mauvais garçon. Je pratique très peu, très peu. Je fais j'ai des tout petits exercices que je fais tous les matins quand je me lève, ça, c'est sûr. Et je garde ça. C'est le minimum. Mais
attends,
c'est vrai
c'est
que
super déjà. Ça veut dire que tous les matins, tu fais
un petit peu d'exercice. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que les 2 dernières années, cette transformation qu'on est en train de faire chez Montblanc a demandé une énergie juste complètement incroyable. Ce qui n'est pas une bonne excuse parce que finalement, je pense que je parle pas du sport, mais en tous les cas de se sentir bien dans son corps, c'est fondamental pour réussir à performer dans le quotidien. Donc c'est pas une excuse, je pense pas encore une fois être le bon exemple, mais en tous les cas je fais attention à ça, je fais très attention à la manière dont je mange. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis très vigilant. J'ai des principes qui sont vraiment importants. Le seul conseil que je donne, c'est si vous faites du sport, surtout, vous arrêtez pas. Parce que
c'est dur de s'y remettre.
C'est dur de s'y remettre. Donc ça, c'est terrible. Et puis voilà, après, moi, il y a des choses que je fais. Je fais voilà, un peu de yoga. Alors moi, j'aime énormément la montagne. Donc si j'avais beaucoup de temps, je ferais beaucoup plus de ski de randonnée que ce que je ne fais. Mais c'est ce que j'aime faire parce que ça me donne des temps de réflexion et des temps de pause et des temps de silence que j'ai pas beaucoup. Voilà, donc après... Si je pouvais, je m'offrirais du temps pour aller jouer au tennis, mais mon corps me le veut pas trop, ça, par contre.
Mais ceci dit, quand même, pour te mettre un peu de baume au cœur, je trouve ça assez rafraîchissant de voir que, en fait, bah, tu n'es pas un surhomme et que tu arrives, en fait, à très bien travailler, mais qu'en fait, juste, bah, y a un moment donné, il faut faire des choix. Et il y a une période de ta vie, peut-être, là, qui est très focus sur le travail, et c'est comme ça. Et en fait, il faut l'accepter, l'assumer, pas aller over the top, mais quand même, au moins l'accepter.
Il y a des petites choses sur lesquelles il ne faut pas avoir de compromis. Voilà. Mmh. Et j'ai fait un voyage il y a quelques années en Chine avec le CMO de chez Adidas et j'avais des problèmes de dos et il m'a donné une leçon de vie. Et effectivement, les tout petits exercices, c'est le minimum et ça, je ne peux pas avoir de compromis avec ça.
C'est quoi les autres choses sur lesquelles tu ne peux pas faire de compromis ?
Alors moi, je peux difficilement faire des compromis sur le sommeil. Y a des leaders qui sont incroyables et qui dorment très peu. Moi, j'ai besoin de sommeil. Je peux pas faire de compromis par rapport à ça. Donc, ça demande aussi quelques ajustements dans un agenda. Mais voilà, c'est ce que je suis.
Ça marche. Pour terminer, Vincent, une question que je pose toujours, c'est mon ancien passé littéraire, j'imagine qu'il ressort, mais le livre ou les livres qui t'ont le plus marqué, que tu recommandes le plus autour de toi, que tu as tout simplement envie de partager ?
Alors, je vais en citer deux. Moi, je suis pas un littéraire, mais je le disais tout à l'heure, mon épouse est plus littéraire que je le suis, donc je vois beaucoup de livres passer. Je choisis pas les siens, donc j'ai pris deux des miens. Il y en a un qui m'a marqué particulièrement il y a quelques années, et j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui l'a écrit. En tous les cas, c'est sa vie, c'est sa biographie. C'est un livre qui s'appelle Open, et c'est la biographie d'André Agassi, avec qui j'ai passé du temps à Las Vegas, donc chez lui, pour comprendre ce qu'il était et ce qu'il faisait. Et pourquoi je le choisis, c'est parce que c'est un livre très simple, mais qui permet de mettre en valeur une chose relativement facile à comprendre, c'est il faut d'abord s'accepter tel qu'on est pour pouvoir mieux aimer les autres. Donc voilà.
Il faut d'abord s'accepter tel qu'on est pour mieux aimer les autres.
Et je pense que lui, il a un parcours où il a eu des difficultés à s'accepter, mais quand on voit ce qu'il est aujourd'hui en tant que personne, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est peut-être le premier livre, facile à lire. Un deuxième qui est aussi facile à lire et beaucoup plus récent, et c'est aussi une personne que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est le général de Villiers, et c'est « Qu'est-ce qu'un chef ?». Alors là-dessus, moi j'ai mis du stabilo partout, donc c'était passionnant pour moi.
C'est une leçon de leadership.
Voilà, c'est sur le leadership. Et si je devais citer trois petites choses, ou quatre petites... Enfin, un élément fort qu'on reprend tout de suite dans le livre, mais qui n'est pas... lié au général de Villiers, est-ce qu'il est, mais en tous les cas, c'est des grands principes qu'on peut retrouver. C'est les quatre piliers d'un bon leader et qui reviennent un peu à la conversation qu'on vient d'avoir sur être bien dans son corps, donc y faire attention. Avoir un cœur qui soit bien ouvert, donc faire attention à l'autre. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Dans son intelligence, plutôt laisser passer le bon sens que la complexité, donc surtout le bon sens. Et puis travailler l'âme, le sens, pourquoi, de le simplifier aussi. Mais voilà, quatre piliers relativement simples sur lesquels je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser. Et du coup, ça m'amène finalement sur une chose qui, pour moi, est importante, c'est, et qui est mon credo, hein, qui est quelque chose que, sur lequel je travaille tous les jours et je dois m'améliorer, c'est la création de valeur. C'est de dire, se poser tous les jours la question de « est-ce que je crée de la valeur ?» Et créer de la valeur, c'est pas obligatoirement lié au business. Hein.
Bien sûr.
Est-ce que je crée de la valeur sur la manière dont je vais aborder ce sujet-là, partager, ou sur l'action que j'ai envie de mettre en place ? Et finalement, il faut faire attention à ça parce qu'il y a pas mal de destruction de valeur et on ne doit pas tout faire. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose de fondamental et qui me pousse tous les jours.
Juste, je suis obligée de rebondir sur cette dernière phrase et sur ce dernier constat. Est-ce que tu aurais un exemple, justement, peut-être de destruction de valeur, de choses que, bah, du coup, tu as dû arrêter de faire ou que tu as eu envie d'arrêter de faire, et à l'inverse, de création de valeur. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel.
Des exemples, j'en ai... c'est une bonne question, mais des exemples, j'en ai pas mal. Alors, Sur la création de valeur, là, c'est très personnel et c'est pas du tout lié à ma vie professionnelle, mais je me suis posé la question de savoir comment je pouvais aussi partager mon énergie en dehors de ma vie professionnelle et aussi de ma vie familiale. Et j'ai eu une chance surprenante, c'est qu'on m'a proposé de prendre une responsabilité dans une association qui est liée au sport et à l'éducation. Voilà, et qui est un patronage. Donc, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un patronage, mais qui n'hésitent pas à regarder ce que c'est. Voilà, c'est un patronage qui a 125 ans, qui est à Paris, qui s'appelle le Bon Conseil.
D'accord.
Et dans laquelle il y a différentes activités, dont une activité sportive où il y a 1400 enfants.
Ah oui.
Et où je suis en charge de cette partie-là. Et où je pense que c'est de la vraie création de valeur, de l'éducation par le sport et par des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes, mais des valeurs aussi de bon sens. Mmh. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment une belle chose et sur laquelle je passe du temps aussi, qui est assez extraordinaire. Et sur la destruction de valeurs, c'est plus dans le quotidien professionnel d'être vigilant sur les mots qu'on utilise quand on parle à nos collaborateurs. Quand on est dans le stress, en ce moment, on est dans une période un peu de crise, donc on voit bien comment le monde évolue, d'être vigilant sur les mots qu'on utilise et aussi sur les actions qu'on veut mettre en place. Tout n'est pas bon à mettre en place. Donc, on a ces discussions avec Nicolas, avec le board tous les jours sur dire, est-ce que là, on n'est pas en train finalement de détruire de la valeur en rajoutant encore une couche supplémentaire à des choses qu'on fait bien et savoir dire non. Donc ça, c'est un exercice quotidien qui est difficile. Hein. Humainement, on n'aime pas dire non.
Ouais.
Donc,
il faut se forcer un peu.
Il faut se forcer. Il faut vraiment se forcer. Et dire non et aussi savoir se taire.
Merci pour tous ces conseils. Vincent, merci pour ton temps. Dernière question, si on veut te retrouver, donc évidemment déjà on va voir la campagne que je mettrai bien sûr sur le blog du gratin et puis dans les notes de l'épisode. On peut retrouver le site de Mont Blanc et puis au-delà de ça, pour te retrouver personnellement, des réseaux sociaux en particulier sur lesquels tu es actif
LinkedIn,
ou pas du tout
LinkedIn. Ouais, je suis pas trop actif. C'est pas facile de
tu n'as pas de compte Instagram sur lequel.
Si, mais il est très discret, donc on va pas me trouver.
Très bien, bah, je mettrai juste ton lien LinkedIn. Alors, merci beaucoup pour ton temps.
Merci Pauline.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.